Les Comiacines par Henri Gréville. Chapitre 1er. La ménagerie de la comtesse Comiacine. Il avait neigé toute la journée, et la nuit promettait de n'être pas meilleure. Un chemin à peine battu dans la neige molle, et recouvert à tout moment par les gros flocons lourds et paresseux, conduisait des communs à la maison seigneuriale. Les domestiques, en habit noir, en cravate blanche, couraient sans cesse à la cuisine, située au milieu de la cour, et revenait pourtant des plats d'argent recouverts de cloches de métal. Le maître d'hôtel s'avançait de temps en temps sur le perron, gourmandant à droite et à gauche du ton le plus rogue, puis reparaissait, obséquieux et souriant, derrière la chaise de la comtesse Comiacine. Les marmitons allaient et venaient, recevant des domestiques des taloches ou des coups de pied qu'ils rendaient avec usure aux chiens de garde attirés par l'odeur du repas. Le cuisinier criait à tue-tête, furieux contre les laveuses de vaisselle, et sur ce va-et-vient inséparable du dîner de chaque jour, la neige tombait lentement, faisant reluire par transparence ses prismes de diamants le long des fenêtres bien éclairées. La comtesse Comiacine n'avait point d'hôte à sa table ce jour-là. Sa maison suffisait seule à lui tenir compagnie. Le comte était absent, il faisait sa tournée annuelle dans ses terres de Crimée. Près de la comtesse, à sa droite, siégeait le gouverneur de son fils, un Allemand aux joues rouges, aux cheveux blonds pâles, aux yeux bleus faïence, qui avait toujours l'air d'avoir trop dîné. À son côté était assis le jeune comte, âgé de 8 ans et demi, pétillant d'esprit et de malice, ignorant comme une carpe et capable d'en remontrer à son précepteur sur la dialectique, détestant d'ailleurs le gouverneur allemand, parce qu'il avait succédé à son ancien menin français, moins instruit peut-être, mais qui faisait si bien les queues de cerf-volant. À gauche de la comtesse se tenait, orgueilleusement plantée sur une chaise, la gouvernante anglaise de sa fille, Miss Junior, qui ne ressemblait pas à l'anglaise traditionnelle, toute petite, très maigre, avec des yeux bridés qui lui donnaient l'air myope et qui voyait très bien, muette à table et employant volontiers, pour parler aux domestiques, la langue française qu'elle écorchait, mais qu'elle prononçait moins mal que le russe. Celle-ci était de peu de ressources pour la conversation. Au flanc gauche de Miss Junior se trouvait la jeune comtesse Zénaïde Comiacine, âgée de 15 ans et 8 mois, aussi jolie et aussi spirituelle que son petit frère Dimitri. Signe particulier, détestant sa gouvernante et adorant celle de sa jeune cousine, chose bien naturelle d'ailleurs. Celle-ci, sa voisine de gauche, était une Suissesse de 40 ans, bonne, placide, foncièrement honnête, peu jolie et n'en ayant cure, contente de remplir son devoir. Miss Junior, étant la gouvernante de la jeune comtesse, recevait 200 roubles par an de plus que Mademoiselle Bochet, bien qu'elle ne sût point la musique, mais la hiérarchie. L'étiquette implacable de la maison Comiacine séparait à table les deux cousines qui se retrouvaient ailleurs à leur grande joie. Mademoiselle Bochet était assise entre Zénaïde et Vassilissa Gorov. Vassilissa venait d'avoir 17 ans, mais elle en paraissait à peine 16. Le teint fleur de pêcher de ses joues veloutées, l'éclat tendre et malin de ses yeux bleus, de ses yeux pervenches, disait l'excellente Mademoiselle Bochet, originaire de Clarins, le sourire modeste et presque craintif de ses lèvres roses, lui donnait l'air d'un pastel du siècle dernier. Sa robe décolletée, les jeunes filles paraissaient toujours au dîner en tenue de bal, dessinaient des épaules adorables et une poitrine chaste, toute jeune encore, et qui semblait avoir honte d'être vue, ainsi que des bras mignons encore roses. Vassilissa ne disait jamais rien en présence de la comtesse Comiacine, sa bienfaitrice et sa parente éloignée, qu'elle appelait ma tante. À côté de Vassilissa trônait l'intendant polonais, bel homme encore qui teignait sa barbe et ses cheveux d'un noir éclatant aux lumières, quoique légèrement verdâtre le jour. Et après l'intendant, venait la foule des demoiselles de compagnie, protégées, dames de petite noblesse, pauvres et recueillies par la comtesse, en attendant qu'elle leur trouvât un asile définitif. La table longue, où le babou n'était pas un vain mot, se prolongea jusqu'à la porte d'entrée. Le vent froid, venu de la cour par l'antichambre à chaque nouveau plat, faisait péniblement tousser une pauvre demoiselle noble, maigre et poitrinaire, qui dévorait ses quintes dans le creux de sa main. Ce bruit ennuyait visiblement la comtesse, mais comme elle était très bonne, elle ne disait rien. Les plats d'argent se succédaient sans fin, comme des enfilades de glace reflétées l'une dans l'autre. La comtesse tenait le dé de la conversation et racontait quelque chose de très intéressant à l'intendant qui l'écoutait sans manger, pour lui témoigner un respect plus évident. Les domestiques en profitèrent pour enlever l'aile de gélinotte que le pauvre Casimir s'était offerte de si bon cœur. Casimir retint un soupir de regret. Les yeux toujours fixés sur les lèvres de la comtesse, il recueillit ses paroles jusqu'à la dernière. Mais au moment où il ouvrait la bouche pour approuver, les protégés et les demoiselles nobles de peu de fortune commencèrent en chœur une série d'exclamations louangeuses qui couvrirent la voix du malheureux intendant. Penaud, il regarda l'assiette de Saxe qu'on venait de mettre devant lui, rêva un instant à la gélinotte envolée, et se consola en pensant qu'on allait servir des glaces. Les deux jeunes filles, qui n'avaient rien perdu de cette petite scène, échangèrent un regard. Vassilissa baissa aussi les yeux sur son assiette, refuge assuré contre les tentations. Mais Zénaïde, plus brave ou moins stoïque, ne put retenir le commencement d'un éclat de rire. La comtesse se tourna vers sa fille avec l'expression de l'étonnement le plus profond. « Je vous demande bien pardon, maman, » murmura Zénaïde, devenue soudain toute rouge. Et elle s'appliqua consciencieusement à l'asperge glacée que le maître d'hôtel venait de poser sur son assiette. Miss Junior eut aussi une asperge. Mademoiselle Bochet et Julie n'eurent qu'une pomme, une glace ordinaire à la vanille. C'est que le maître d'hôtel connaissait ses devoirs et la hiérarchie n'avait pas d'arcane pour lui. Le dessert apparut enfin. Les assiettes de Saxe montées, les fruits venus de France ou de Crimée, les confitures diverses, circulaires avec les petites cuillères d'or ciselées à jour, avec les petits couteaux d'ivoire à manches de filigrane que le comte avait rapportés du Caucase, chef-d'œuvre d'un Tcherkès demeuré inconnu. Puis, la comtesse recula sa chaise et se leva, développant sa haute taille et sa robe de moire bleue. Un gros brouhaha suivit. Toute l'assemblée se mit à la file pour atteindre les doigts que la comtesse abandonnait généreusement aux baise-mains obligatoires. Une poignée de main d'une part, une révérence de l'autre, s'échangèrent entre la comtesse et les deux gouvernantes, et tout le reste se précipita sur la noble main qui donnait de si bons dîners, si longs. Naturellement, ceux qui étaient les plus proches à table s'écartèrent pour laisser passer les autres. Madame Koumiassine, avec un sourire de commande, déposait un baiser sur chaque front incliné sur ses doigts, mais ordinairement le baiser restait en l'air ou dans les ruches d'un bonnet. Lorsque la dernière protégée eut accompli ce devoir, la comtesse lui tourna le dos et se dirigea vers le salon voisin éclairé d'une lampe voilée par un abat-jour. Après l'éclat des candélabres et de l'argenterie, ce demi-jour avait quelque chose de particulièrement rafraîchissant. Arrivée sur le seuil de la porte, la comtesse aperçut qu'elle avait oublié quelque chose et s'arrêta. Un geste imperceptible fut aussitôt compris du maître d'hôtel, qui refoula sans façon le groupe de protégés, prêt à sortir par la porte opposée. Tout le monde se retourna. « J'ai voulu vous annoncer moi-même, » dit en français la comtesse Koumiassine de sa voix claire et distincte comme un hautbois, que d'aujourd'hui en huit nous retournons à Pétersbourg pour la saison d'hiver. Soyez sans inquiétude, mesdames, dit-elle en s'adressant plus particulièrement à la foule des protégés. D'ici là, tout le monde sera pourvu. Le troupeau servile fit mine de se précipiter encore une fois sur les mains de la comtesse pour la remercier. D'un geste plein de noblesse et de grâce, elle arrêta ce mouvement de reconnaissance impétueuse, retourna dans le petit salon et se laissa tomber un peu lourdement dans une grande bergère placée sous la lumière de la lampe. Les plus privilégiés des dames nobles mais de peu de fortune la suivirent et s'assirent sur des chaises faisant tapisserie. « Lisez-moi le journal, monsieur Bartel, » dit la noble dame au gouverneur allemand. « Lequel, comtesse ?» et l'infortuné en fouillant fiévreusement dans un paquet prodigieux de journaux et de revues. Le journal, non, le premier article de la Revue des Deux Mondes. Le gouverneur prit le livre et commença la lecture avec un accent germanique des plus prononcés. Que faites-vous ici, monsieur ? Interrompit la comtesse en voyant la tête moqueuse de son fils émerger derrière le rideau de la porte. J'écoute mon gouverneur, maman, répondit Dimitri sérieusement. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il lit. Retirez-vous.
Oh, maman, c'est si amusant. Il lit si mal.
La comtesse fronça le sourcil et Dimitri disparut. Chapitre deuxième. Ce qui se disait entre jeunes filles. Le jeune comte ne perdit pas une minute. Il courut à la grande pièce nue et mal éclairée où sa sœur et sa cousine passaient leur vie en compagnie de leur gouvernante. On le laissait peu de temps avec les deux jeunes filles, et il avait fallu que l'attrait d'entendre lire si mal son gouverneur fût bien puissant pour le retenir loin d'elle. Il bouscula la foule des domestiques occupés à desservir et pinça de toutes ses forces en passant le maître d'hôtel qui lui sourit aimablement. « Ah, jeune comte, vous plaisantez !» dit avec aménité le vieux coquin, qui ajouta dès que Dimitri eut disparu, « Petite canaille !» Les deux gouvernantes, chacune dans son coin, se berçaient des rêves les plus doux. Pétersbourg, dans 8 jours. Pétersbourg, qu'elle quittait avec désespoir au mois de mai, qu'elle retrouvait avec transport au mois de novembre. Pétersbourg, où l'on avait le cabinet de lecture anglais de la place de l'Amirauté, et la colonie suisse, et l'église réformée, et la chapelle anglicane, et les compatriotes, et aux joies ineffables, les jours de sortie. Y a-t-il quelque chose de plus détestable, se disait-elle, que la campagne, où l'on n'a pas de jours de sortie? Rester attelé à la besogne pendant 14 jours, c'est bien ennuyeux, mais au moins a-t-on le dimanche 2 fois par mois pour s'épanouir en liberté, tandis que 6 mois de campagne forcée, vis-à-vis d'une rivale détestée ou simplement jugée bête ou prétentieuse. Si les deux gouvernantes ne se haïssaient pas cordialement, c'est qu'au fond elles n'étaient méchantes ni l'une ni l'autre. Pour le moment, à l'idée de ne plus être uniquement condamnées à leur société réciproque, elles s'aimaient presque. Les deux chaises se rapprochèrent et les projets d'avenir prirent l'express. Les jeunes filles de leur côté étaient si sérieuses que le récit de l'escapade de Dimitri ne les fit rire qu'un moment. À l'idée de Pétersbourg, le petit comte faisait la roue sur le parquet. C'était encore le menin français qui lui avait inculqué ses mauvaises manières. Il allait retrouver le skating club et les leçons de gymnastique. On le menaçait bien de lui faire commencer le piano, mais c'était encore hypothétique pour cet hiver-là. Il trouva bientôt ses cousines maussades et se mit à découper avec beaucoup d'art une masse de profil de l'intendant dans une feuille de papier, toujours les fruits de l'éducation de son menin français, le misérable. Pendant qu'il s'amusait à faire des traîneaux de papier pour varier ses plaisirs, les deux jolies têtes des cousines s'étaient rapprochées et elles causaient confidentiellement. Jusque-là, les jeunes filles avaient tout partagé, la grande chambre où dormaient aussi les deux gouvernantes, chacune à l'abri d'un paravent, les leçons de français et les leçons d'anglais, les promenades, tout enfin, excepté les toilettes et les respects de la bataille. Vassilissa n'était et ne pouvait être que l'orpheline élevée par charité dans la maison de la riche comtesse sa parente. Elle avait de jolies robes, mais si l'étoffe était aussi belle, la façon était moins élégante et moins à la mode que celle des robes de Zénaïde. Sa gouvernante était payée moins cher. Vassilissa avait très peu d'argent de poche. À Noël et à Pâques, elle ne donnait pas de cadeaux aux domestiques, tandis que Zénaïde avait ordre de donner sans compter dans ces occasions solennelles. Aussi, Vassilissa sentait-elle son infériorité, et si elle n'en souffrait guère, c'est qu'elle aimait trop sa cousine pour laisser se glisser dans son cœur un sentiment qui, de près ou de loin, eût pu ressembler à de la jalousie. Zénaïde, elle, était l'oiseau heureux qui perche, vole, gazouille, sans s'inquiéter du reste. Elle craignait sa mère, qu'elle aimait, un peu comme on aime les saints du paradis avec respect et de très loin. Son frère était trop jeune, sa gouvernante sévère d'aspect. Elle aimait sa cousine de toute sa force, de toute son âme. Plus que sa cousine encore, mais d'un amour plus réservé, elle aimait son père, toujours absent, et en raison de ses absences, comptait pour peu de choses au logis. « Pétersbourg, disait tristement Vassilissa, Et qui sait si je reviendrai ici l'année prochaine? Pourquoi pas? Mais ma tante n'a-t-elle pas dit qu'elle me conduirait dans le monde cette année? Eh bien, quel rapport cela peut-il avoir si je me marie? Oh, Lisa, si tu te maries, que ce sera gentil. On me fera une robe longue pour la noce. Marie-toi, Lisa, marie-toi. Nous ne serons plus ensemble, et je ne reviendrai plus ici. J'aime cette vieille maison. J'y étais bien heureuse. Nous sommes libres dans ce coin. Personne ne nous dérange. Bon, dit étourdiment Zénaïde. À Pétersbourg, maman est toujours sortie. Un silence suivit. Tu vas revoir ta mère, reprit Zénaïde au bout d'un instant. En effet, Vassilissa avait encore sa mère. Mais cette mère, restée veuve de bonne heure et sans fortune, s'était accoutumée à un milieu moins relevé que celui de sa famille. Ses manières n'étaient pas irréprochables au point de vue de l'élégance, et la comtesse Koumiassine, tout en traitant extérieurement sa cousine Gorov avec beaucoup d'égards, ne lui permettait que rarement de voir sa fille, et cela toujours en présence de la gouvernante. Madame Gorov en souffrait plus dans son amour-propre que dans son amour de mère, à vrai dire peu développé. Mais la cousine était riche, elle avait promis de doter Vassilissa. Et puis, l'absence de sa fille lui laissait la liberté de bavarder à son aise avec quelques bonnes langues, ses amis. Vassilissa répondit tristement. « Oui, c'est vrai, je vais revoir ma mère. » Et elle n'ajouta rien. À 9 heures, on servit le thé. Toujours les porcelaines fines et l'argenterie massive, toujours les petits pains dorés, le beurre battu exprès à l'instant même, les gâteaux faits de crème épaisse et de fleurs de froment. Tout le luxe d'une famille princière et en même temps le manque de confort qui caractérise, surtout en Russie, les services de la bataille de grandes maisons. La maîtresse du logis payait largement, mais au fond ne se souciait pas du bien-être de ses hôtes. Jamais elle ne regardait par elle-même si les enfants ou les employés étaient bien servis. L'heure du coucher vint ensuite. Bartel apparut en quête de son élève, qui lui remplit ses poches de cocottes de papier pendant qu'il disait quelques fadaises aux gouvernantes. Dimitri embrassa les deux jeunes filles, fit une révérence à Mademoiselle Beauchet et s'en allait sans dire bonsoir à Miss Junior quand il fut arrêté et réprimandé par son précepteur. Le délinquant se laissa ramener de bonne grâce, cela perdait toujours un peu de temps, fit un salut profond à Miss Junior et en s'en allant lui fit les cornes derrière son dos, à l'inexprimable satisfaction de Zénaïde. Les gouvernantes se retirèrent à l'abri de leurs paravents respectifs, chacune avec une bougie pour faire leur toilette de nuit. Les femmes de chambre entrèrent dans la grande pièce en marchant sur la pointe du pied. Elles tressèrent en silence les longues nattes des fillettes assises sur des chaises dans leurs grands peignoirs. Puis les jupons blancs, les fraîches toilettes disparurent, emportées à bout de bras. Vassilissa et Zénaïde se prosternèrent ensemble devant les saintes images et firent leurs prières. Elles dirent de loin bonsoir auparavant et se glissèrent dans leurs petits lits blancs, si rapprochés l'un de l'autre qu'elles pouvaient se parler tout bas. Contre l'habitude, Lisa resta muette.
« Je suis sûr que tu penses à ton mariage, »
lui chuchota Zénaïde quand la bougie du second paravent fut éteinte.
« Oui, »
répondit doucement Vassilissa, qui étendit la main pour prendre celle de sa cousine. « As-tu envie d'être mariée ?» reprit celle-ci curieusement. Ce mot de mariage, qui n'était pas encore fait pour elle, lui semblait plein de jolies choses. Elle y entrevoyait des robes neuves, des bijoux, la délicieuse toilette blanche, les fleurs d'oranger, les chantres et les cierges allumés, tout excepté le mari.
« Non, »
répondit Vassilissa après avoir un instant soupesé la question dans son esprit.
« Pourquoi ?»
fit Zénaïde, tellement surprise qu'elle faillit parler haut.
Un
significatif sorti du paravent de gauche.
« Pourquoi ?»
reprit-elle plus bas en secouant la main de sa cousine.
« Je ne sais pas. J'ai peur. »
« Peur de quoi ?»«
Du mari. »«
Quelle drôle d'idée. Mais un mari, ce n'est pas effrayant. C'est un mari. Tout le monde se marie. Moi aussi, je me marierai. Je l'espère bien, au moins. »«
J'ai peur du mari qu'on me choisira, » dit nettement Vassilissa, qui venait de découvrir le motif de son appréhension secrète.
« Il sera jeune, riche, noble, comme tous les maris. » reprit Zénaïde d'une voix rêveuse.
« Non, Zina, »
dit Vassilissa avec fermeté. Il ne sait rien de tout cela, et il faudra que je l'épouse.
Qu'en sais-tu? Tu as de singulières idées ce soir.
Tu verras.
Plaise à Dieu que tu te trompes.
C'est que je ne l'aimerais pas, ton mari, s'il était comme tu dis.
Je ne l'aimerais pas non plus.
Bonsoir, ma chérie.
Dors bien,
dit doucement l'orpheline. À la lueur de la lampe qui brûlait devant les images, les deux bustes mignons se soulevèrent. Un baiser fut échangé. Fit le paravent de droite. Les deux têtes se nichèrent dans les oreillers, et le silence ne fut plus interrompu de la nuit que par les ronflements aigus de Miss Junior.
Chapitre troisième. Ce qu'était la comtesse Koumiassine. Quand la comtesse Koumiassine, lors du décès de son cousin Gorov, avait pris à sa charge Vassilissa, âgée de quelques mois seulement, elle était mariée depuis 11 ans et n'avait pas d'enfant. Dans la rue, à la promenade, elle regardait les jolis plis que faisaient sur les bras des nourrices, les pelisses de cachemire blanc richement brodées, et elle enviait le bébé, ce complément de la vie pour une femme mariée. Dans le décès précoce de son cousin, elle vit le doigt de Dieu qui lui envoyait l'enfant désiré sans danger ni peine pour elle-même. Le consentement de Madame Gorov ne fut qu'une affaire de simple formalité, et 8 jours après la mort de son père, Vassilissa entrait dans la maison comme fille adoptive de la comtesse. Le comte, qui aimait les enfants, du reste le meilleur des hommes, avait consenti aussitôt à la proposition de sa femme. Il alla chercher et apporta lui-même dans sa voiture un magnifique costume de nourrice russe pour la péronnelle villageoise qui nourrissait l'enfant, et fut au comble de la joie de voir se promener dans la maison cette belle fille, couverte comme une châsse de damas bleu et de galons d'or, avec sa coiffure russe brodée de perles et de paillettes. La comtesse se fit suivre à la promenade par la nourrice et le nourrisson, répondant aux étonnements par des plaisanteries, et jouant à la jeune mère avec beaucoup de naturel. Mais le ciel, paraît-il, n'avait pas pris la plaisanterie d'aussi bonne grâce, car un beau matin, après quelques mois de maternité fictive, la comtesse aperçut qu'elle était mère pour tout de bon. Ceci ne lui prêta point à rire. D'abord, elle était mariée depuis 12 années, et puis, qu'allait-elle faire de l'enfant qu'elle avait si malencontreusement adopté, à présent qu'il y en aurait un autre? Faute de mieux, elle se borna à espérer que ce serait un garçon. Mais quand la Providence s'amuse à nos dépens, elle ne fait pas les choses à demi. Le garçon fut une fille. Le comte en prit aussitôt son parti. Les deux fillettes grandiraient ensemble. Les jeux et les études n'en seraient que plus faciles pour Dina. Mais la comtesse, plus pratique, vit plus loin dans l'avenir et se dit qu'il faudrait marier Vassilissa de très bonne heure, afin qu'elle ne fût pas un encombrement trop sérieux. À vrai dire, depuis ce moment-là, elle ne l'aima plus du tout, et s'il n'alla pas jusqu'à la haïr, c'est parce que sa foi religieuse et son devoir de charité lui commandaient d'aimer et de protéger une enfance en défense, dont en outre elle était la marraine. La Providence, prenant toujours au sérieux le désir de la comtesse d'avoir des enfants, lui envoya un fils, Dimitri, 7 ans après la naissance de Zénaïde. Cette fois, ce fut un vrai désespoir. La comtesse resta 6 mois sans sortir de ses terres, et les plus proches même n'entendirent parler de l'événement qui donnait un héritier mâle aux Koumiassine que lorsque le fait fut accompli. Heureusement, les miséricordes du Seigneur s'arrêtèrent là, car si elles se fussent une fois de plus traduites sous la même forme, les principes religieux de la comtesse n'eussent peut-être pas pu la retenir de mettre fin à ses jours. Cependant, l'ordre le plus parfait ne cessa pas un instant de régner dans la maison Koumiassine. Les deux petites filles grandirent côte à côte, Vassilissa plus délicate et demandant plus de soins, Zénaïde plus robuste et venant à plaisir. On les habilla de même tant qu'elles furent petites. Elles n'eurent pendant longtemps qu'une gouvernante pour deux. Puis un jour, Lissa avait environ 15 ans, on lui mit des robes longues, on lui donna une institutrice pour elle seule, et celle-ci reçut la mission de tourner son élève vers les devoirs sérieux de la vie. « C'est une orpheline sans fortune, Mademoiselle Beauchet, ne l'oubliez pas. Son lot dans la vie ne sera pas celui d'une héritière. Efforcez-vous de lui inspirer des goûts modestes et l'humilité chrétienne dans toute sa noblesse résignée. » La comtesse daigna s'exprimer ainsi en remettant sa nièce aux mains de la brave Suissesse. Heureusement, celle-ci avait un excellent cœur. Elle ne comprit point ce qu'on voulait d'elle, et se conformant à la lettre plutôt qu'à l'esprit, elle inspira à son élève le goût de tous les devoirs et de toutes les vertus, qui, puisqu'elles sont des vertus, ne sauraient être autrement que modestes. Mais le dédain des domestiques aidants, Vasilissa avait compris. Aussi ne la vit-on jamais en faute. Elle eut l'esprit de ne pas rendre sa cousine chérie responsable des erreurs de sa mère, mais elle se fit dans le silence des heures de travail une ligne de conduite dont elle ne se départirait jamais. Elle se promit de céder aussi longtemps que l'amour-propre seul serait en jeu et de résister impitoyablement si son honneur ou sa dignité se trouvaient en péril. « On m'a donné l'éducation d'une demoiselle noble, se dit-elle. Tant qu'on me traitera comme une demoiselle, j'accommoderai mes goûts à mes obligations envers ma bienfaitrice. » Mais si elle manque aux engagements que le fait seul de ses obligations lui a fait contracter envers moi, je saurai lui tenir tête quand je devrais aller mourir au couvent. Mourir au couvent, c'est le grand mot quand on a 15 ans. À 20, on trouve d'autres ressources pour résister. Le soir dont nous parlons, lorsque le gouverneur allemand se fut retiré, la comtesse congédia les protégés qui lui servaient de dame d'honneur et s'abandonna à ses réflexions. Vasilissa l'avait deviné. On voulait la marier. Le moment était venu où cette petite fille devenait incommode. Zina allait avoir 16 ans dans le courant de l'hiver. Il faudrait songer à l'établir. Comment attirer des jeunes gens dans la maison? Comment la produire dans le monde tant que Vasilissa serait là? Elle était beaucoup trop jolie pour ne pas présenter de nombreux inconvénients. Oui, certainement, elle était jolie, la comtesse en convenait. Son amour maternel ne la rendait pas aveugle. Sa nièce était une bonne enfant, attachée et reconnaissante, très jolie, très bien élevée. Ici, la comtesse se rendit justice avec quelque complaisance. En vérité, sa propre fille n'était pas mieux élevée. Sauf le dessin pour lequel Vasilissa n'avait point de disposition naturelle, elle possédait les mêmes talents que Zina, et quelques-uns à un degré supérieur, ce que la maturité plus avancée de son âge expliquait du reste. La bonne comtesse cherchait autour d'elle un mari de condition moyenne, un noble, bien entendu. Mademoiselle Goroff était de bonne noblesse, mais la dot que sa bienfaitrice pouvait lui donner sans dépouiller ses enfants était bien peu de chose. Il fallait un homme qui eût de la fortune, pas trop, à quoi bon? Est-ce que jamais la richesse a fait le bonheur? La comtesse oubliait en ce moment qu'elle possédait près d'1 million de francs de revenus, et que si la fortune ne lui avait point donné le bonheur dont elle jouissait, elle lui avait au moins procuré les facilités d'oublier ou d'ignorer bien des petits désagréments. Minuit sonna sur les réflexions de la comtesse. Elle se leva avec la majesté qui ne l'abandonnait jamais, passa dans sa chambre à coucher et se livra aux mains d'une demi-douzaine de femmes de chambre. Pendant qu'on lui ôtait ses vêtements, une des protégées récitait les prières devant les saintes images et faisait avec ferveur de grands signes de croix accompagnée de génuflexions abondantes. Lorsqu'elle eut fini les prières de la comtesse, celle-ci s'approcha de la cloison, couverte, sur 6 pieds de haut et 4 de large, d'images de toute espèce, en or, en argent, en vermeil, sur un fond de perles de turquoise revêtues de diamants, de rubis ou d'émeraudes pour la plupart. Elle baisa avec une vénération particulière une image de la Vierge, vieille peinture byzantine, qui portait au-dessus du front un saphir gros comme un œuf de pigeon. Puis elle retourna vers son lit et s'endormit bientôt sous les reflets mystérieux de la lampe de cristal suspendue devant l'iconostase qui faisait luire de temps en temps des gerbes d'étincelles dans les pierreries des images. Une femme de chambre de service apporta une mince galette de matelas auprès de la porte et s'étendit dessus tout habillée pour le cas où sa maîtresse aurait besoin de ses offices pendant la nuit. Chapitre 4. Zénaïde traduit les ordres de sa mère. Le lendemain, en se levant, Zina courut à la fenêtre, en chemise, ses pieds nus chaussés de pantoufles. « La neige, la neige » s'écria-t-elle en battant des mains. « Le soleil sur la neige, quel bonheur !»« Comment peut-on aimer la neige ?» grogna l'anglaise en avançant la tête derrière son paravent. « Miss Zénaïde, allez vous habiller tout de suite, il fait froid. »« Non, Miss Junior, il ne fait pas froid. » « Il y a 2 heures que le poêle est chauffé. La neige, j'ai envie de courir comme je suis dans la neige et d'y sauter à pieds joints. C'est si bon, si mou. » Mademoiselle Beauchet ne put s'empêcher de rire.
« Allez vous habiller, Miss Zénaïde, » répéta l'anglaise. Mais Zina ne l'écoutait pas. Elle avait pris les deux mains de sa cousine, aussi peu vêtue qu'elle, et les deux jeunes filles se mirent à bondir et à tournoyer par la chambre avec de petits cris de joie jusqu'au moment où Zina, hors d'haleine, se laissa tomber en riant sur le bord de son lit. « J'ai perdu ma pantoufle » s'écria-t-elle. « Qu'on cherche ma pantoufle !» Elle se pendit à un cordon de sonnette, carillonnant à tour de bras. Un troupeau de filles de service effarouchées se précipita dans la chambre. « Cherchez ma pantoufle !» dit-elle avec majesté. Le troupeau féminin se précipita à quatre pattes dans toutes les directions, et pendant un moment on n'aperçut que des jupons en peloton. Toutes les têtes avaient disparu. Zina, après avoir remonté ses genoux sous son menton et soigneusement tiré sa chemise sur ses pieds qu'elle prit dans ses deux mains, dit à sa cousine qui s'habillait plus tranquillement « Sais-tu, Lisa, je vais demander à maman la permission de faire atteler le petit traîneau, le tout petit, tu sais, et nous irons nous promener dans la neige, dans la forêt. » « Par exemple, Miss Zina, voilà une idée bien étrange par un froid si cruel. On ne nous emmènera pas, Miss Junior. Nous laisserons les personnes raisonnables à la maison. Nous irons toutes seules, n'est-ce pas, Lisa ?»« Seule, Miss Zénaïde, je ne puis permettre. »« Je le sais bien, Miss Junior. Aussi, n'est-ce pas vous que j'en demanderai la permission? C'est à maman. »« Mademoiselle, on ne trouve pas votre pantoufle, » vint dire d'un air piteux la première femme de chambre. Zénaïde regarda autour d'elle. « Tenez, la voilà sur la console dans la boîte à ouvrage de Miss Junior. » Celle-ci, horrifiée, se précipita hors du paravent, mais l'objet incriminé était déjà dans la possession d'une fille de service qui se mit à étirer lentement, sur les jambes longues et fines de la jeune comtesse, un bas de soie blanc aux mailles serrées. Depuis longtemps, Vasilissa avait mis toute seule ses bas de fil d'Écosse. La toilette de Zénaïde fut longue, car elle ne pouvait rester en place un seul moment. Enfin, malgré ses bonds impétueux et ses mouvements de chèvre fantasque, la soubrette excédée qui la coiffait finit par achever de superbes nattes brunes, longues, soyeuses, bouclées du bout, malgré les efforts du peigne, et se mit en devoir de les disposer sur la jolie tête brune. Après deux ou trois essais, Zina perdit patience. « Personne ne s'est attaché mes cheveux pour qu'ils tiennent. Vous avez toute peur de me casser comme si j'étais de verre. Lisa, veux-tu ?» Elle tendit le paquet d'épingles à son amie, qui se mit à l'œuvre. Quand ce fut fini, « Merci, ma chère, » dit-elle. « Il n'y a que toi pour cela, comme pour le reste. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. » Et chantant comme un oiseau joyeux, elle embrassa sa cousine à tour de bras. Puis les deux jeunes filles se dirigèrent vers les images, et devenues soudain sérieuses, elles firent leur prière avec toute l'ardeur de leur cœur innocent. À midi, le déjeuner réunissait moins de monde que le dîner. Souvent, la comtesse n'y paraissait point et se faisait servir dans son petit salon. Les protégés déployaient alors un appétit féroce, et les gouvernantes causaient avec M. Bartol, en possession de tous ses moyens, que la majesté de la comtesse faisait souvent pâlir au dîner. Dimitri profitait des distractions de son précepteur pour échanger avec sa sœur des signes télégraphiques à propos des projets de l'après-midi. Mais ce jour-là, Zénaïde ne voulut rien entendre. Elle savait que sa promenade était perdue si Dimitri faisait mine d'y vouloir participer. Aussi fut-elle impénétrable, et son frère boudeur lui tourna le dos dès qu'on se leva de table. Zénaïde entra alors sur la pointe des pieds dans le petit salon où sa mère lisait le journal elle-même pour ne déranger personne. Au bruit des pas légers sur le tapis, la comtesse leva la tête et, clignant un peu, car elle était très myope, « Ah, c'est vous, ma fille, » dit-elle. « Bonjour, mon enfant. Bonjour, Vasilissa. » Et les deux têtes inclinées chacune sur une main reçurent un baiser amical et digne. « Maman, » dit Zénaïde du ton le plus câlin, « j'ai une très grande faveur à vous demander aujourd'hui. »« Voyons, » dit la comtesse en souriant bénévolement, « nous voudrions... Je voudrais bien aller me promener en traîneau dans la forêt sur la neige nouvelle. « Oh, maman, dites oui. C'est si gentil, la neige toute neuve. » « Mais, ma fille, de ce que vous aimez la neige, il ne s'ensuit pas que tout le monde doive l'aimer. Cette promenade ne charmera pas votre gouvernante. Il ne faut pas être égoïste, mon enfant. Nous devons apprendre de bonne heure à sacrifier nos plaisirs au bonheur des autres. » Zénaïde reçut d'un air soumis cette leçon de morale maternelle, puis elle reprit d'une voix caressante. « Aussi, maman, n'est-ce pas Miss Junior que je vous demande pour compagne de promenade? Je sais qu'elle n'aime pas la neige, et je ne voudrais pour rien au monde lui être désagréable. » La petite hypocrite appuya sur le mot « rien » comme si elle eût mûri sa conviction pendant des années. « C'est avec ma cousine, maman, » continua-t-elle, « que je voudrais aller dans la neige. Votre cocher Garasim est un excellent cocher, très prudent. Si vous vouliez bien donner ordre d'atteler le petit traîneau, le plus petit, avec le jeune cheval noir, nous ferions une toute petite promenade dans la forêt. Une heure seulement, ma chère maman, et nous serions si sages tout le reste de la journée. » La rusée fillette s'était approchée de sa mère. Se laissant couler à genoux sur le tapis, elle caressait en parlant les belles mains de la comtesse. Elle reformait du doigt les tuyaux de Valenciennes qui sortaient de ses manches. Elle faisait de jolis plis avec l'étoffe moelleuse de la robe de satin noir. La comtesse, ensorcelée par la petite fée, sourit et laissa presque échapper le bienheureux consentement, mais elle se ravisa. « Appelez vos institutrices, » dit-elle. Vassilissa vola comme un trait dans la salle à manger et ramena les deux gouvernantes qui restèrent sur le seuil de la porte. « Ces demoiselles ont-elles été sages ?» demanda la comtesse avec toute la gravité désirable. « Oui, madame la comtesse, » répondirent ensemble les duègnes. « Eh bien allez, mes enfants, je vous permets de vous promener pendant une heure et demie. Zina, donnez l'ordre d'atteler le jeune cheval noir au petit traîneau. » Les jeunes filles baisèrent avec reconnaissance les mains de la comtesse et sortirent du salon avec une belle révérence. À peine avaient-elles franchi la porte qu'elles prirent leur vol vers l'office. « Vite, vite, appelle Garasim !» dit Zénaïde au premier domestique qu'elle rencontra. « Mais vas-y toi-même, ne fais pas promener mes ordres tout autour des communs, comme vous faites tous. Je veux Garasim tout de suite. » Le domestique salua et partit sur le champ. Moins de 5 minutes après, le cocher, tout essoufflé, entrait. « Écoute, » lui dit Zénaïde avec gravité, « tu vas promener les demoiselles aujourd'hui. C'est la première fois que tu iras sur la neige cette année, n'est-ce pas ?»« Oui, comtesse, » répondit le vieux cocher qui adorait sa maîtresse. « Eh bien, je veux te porter bonheur. « Tu vas prendre le petit traîneau, le tout petit, bas. » Madame la comtesse l'a permis. « Eh oui, grand Nigo, est-ce que je te le dirais sans cela ?»« Bas prendre le petit traîneau, mets-y beaucoup de tapis, beaucoup de fourrure. »« Attache-les bien, » ajouta-t-elle à demi-voix, « parce que tu sais, nous tomberons. » Elle éclata de rire et embrassa Vassilissa qui se tenait tout contre elle. « Mais n'en dis rien, » lui dit-elle, « c'est si amusant. »« J'entends, mademoiselle, et quel cheval ?» « Le cheval noir, mon bijou de cheval et Reb, il n'est pas méchant, n'est-ce pas ?»« Oh non, comtesse, et puis avec un traîneau bas, il n'y a pas de danger. » Gagné par la belle humeur qui rayonnait des yeux de Zénaïde, le brave homme sourit. « Dépêche-toi, entends-tu, je te donne 10 minutes, pas une de plus. »« Il faut pourtant attacher les coussins, mademoiselle, » dit Garasim avec un sourire qui éclaira sa physionomie basanée. « Eh bien, je te donne 11, bas, ne t'amuse pas. » La mignonne comtesse poussa d'un geste mutin la lourde masse du cocher et s'envola avec Vassilissa dans la chambre où les pelisses, les bottines fourrées et les caplines les attendaient déjà.